Chapitre 8. Le jockey en question était superstitieux et persuadé qu'il finirait par mourir d'une chute de cheval ou d'un quelconque accident. Chaque matin, il rédigeait discrètement cette simple phrase avec la date du jour, annonçant son décès et signifiant son amour pour ses proches. Et chaque soir, au lieu de détruire ce mot qu'il sortait de sa poche, il le rangeait dans une boîte dissimulée au fond d'un tiroir de son bureau, en signe de victoire sur la mort. Après sa disparition, sa femme découvrit plus de 800 papiers empilés avec minutie. Tel était son secret, son tour impossible. Assis sur un banc, emmitouflé dans son blouson et attendant le glaive pour l'autopsie, Charcot pensait encore à cette vieille histoire. À la manière du jockey, l'assassin les avait tous leurrés. Personne n'avait douté de l'identité de la victime. Parce qu'on était chez elle, dans son lit, parce que la voiture devant l'habitation était la sienne, parce que, en général, on ne cherchait pas à réfuter l'évidence. Toutefois, les parents avaient été formels. Le cadavre allongé sur le brancard n'était pas celui de leur fille. Certes, la taille, la couleur des cheveux, la corpulence pouvaient prêter à confusion, mais en dehors de ça, l'anonyme couché là n'avait rien à voir avec Delphine. La joie relative des escrémieux avait vite laissé place à une nouvelle forme de détresse. Où se trouvait leur enfant? Son véhicule garé près d'un endroit où elle ne se trouvait pas, dans ce contexte, faisait songer au pire. Et avant qu'il ne quitte l'IML, la mère s'était persuadée qu'il lui était arrivé quelque chose de grave. Bien sûr, loin d'elle l'idée que Delphine puisse être responsable d'un tel crime. Pourtant, l'hypothèse méritait qu'on s'y penche. Delphine Escrémieux avait-elle tué sauvagement avant de disparaître et de le faire savoir? Si oui, qu'est-ce qui avait pu la pousser à commettre pareille atrocité? Franck alla aux toilettes s'asperger le visage d'eau fraîche. Plus de 36 heures qu'il n'avait pas fermé l'œil. Les gars racontaient que c'était leur lot quand on découvrait un cadavre de nuit. Un long tunnel sans fin. Le jeune inspecteur le sentait. Les nerfs le maintenaient debout, mais il ne supporterait pas un tour d'horloge supplémentaire sans dormir. Le glaive débarqua quand il sortit, même cravate que plus tôt, et coupe au bol impeccable. Sa moustache décochait des reflets argentés sous les néons. Toute la brigade est en ébullition, je t'explique même pas. Une morte, une disparue, cette histoire de poème entre les deux. Il lorgna en direction de Charcot qui ne disait rien. Les deux hommes s'enfoncèrent dans le labyrinthe de couloirs. Glichard connaissait le chemin par cœur. Un procédurier n'échappait jamais à une autopsie. « Je sais que c'est ta première », souligna-t-il. « Je me rappelle encore la mienne. J'avais à peu près ton âge. Un noyé que c'était. Il n'y a rien de pire. » Et d'un, il pue à t'arracher le nez, et de deux, on ne peut pas relever leurs empreintes à cause de la peau plissée. Il faut déganter chaque doigt comme un capuchon de stylo et mettre ça sur un dé à coudre. C'est... s'il te plaît. Le glaive sourit. Il lui tendit une mignonnette pleine de liquide ambré. Bois ça, c'est du calva, réserve personnelle. Mets-en aussi dans tes narines comme des gouttes pour le rhume. Après l'examen, Titi veut que tu rentres chez toi et tu pionces. Charcot ne se fit pas prier et s'empara de la petite bouteille. Ça sent l'essence. « Rassure-toi, ce n'est pas le calva, c'est ma moustache. Je l'imprime toujours d'essence avant de venir ici. D'autres foutent de l'eau de Cologne. Chacun sa méthode. L'odeur des gaz intestinaux, ça peut vraiment te faire tomber dans les vapes. C'est déjà arrivé à des collègues, même des solides. T'apprendras tout ça avec le temps. T'as pas mangé, j'espère ?»« J'ai l'estomac vide depuis hier. »« Parfait. Ah, autre chose. Le passage le plus difficile, c'est quand le légiste rabaisse la peau du visage. » Essaie de survivre à ça, dis-toi qu'elle est morte, que c'est dans un souci de justice et de recherche de la vérité qu'on agit. » Franck avait la gorge trop nouée pour parler. Il avala son alcool cul sec et en déposa dans ses narines. Le légiste, Stanislas Van de Velt, ainsi qu'un assistant, les attendaient en salle numéro 3. Le médecin portait un pantalon de treillis sous son tablier blanc et était chaussé d'espèces de sabots en plastique bleu. Charcot remarqua une mouche au sol. Elle tournoyait sur le dos dans un bourdonnement d'ailes. Sans s'en apercevoir, Van de Velt l'écrasa en s'approchant de la victime. On a nettoyé le corps et viré un maximum de. On a aussi réalisé les étapes préliminaires. Pesé, mesuré, rasé. Le jeune inspecteur enfonça ses poings dans les poches de son blouson et les serra fort avant d'oser un regard vers la dépouille. Elle reposait sur une table en métal bordée de deux rigoles en légère pente. Son crâne avait en effet été rasé et sa face gonflée était tournée vers le plafond. La couleur de sa peau oscillait entre le vert, le rouge et le noir. Elle suggérait une fleur fanée, arrachée prématurément à la vie. « Les fleurs du mal », songea Franck. « Empreinte digitale relevée », continua le légiste et les invitant à avancer. J'ai fait le tour des signes particuliers. Les radiographies n'ont rien révélé de notable, ni prothèse, ni fracture. Les coups au visage n'ont rien cassé, dents soignées. Les différents échantillons sont sur la paillasse. Cadavre X, est-ce que j'ai compris ?
Pour l'instant, répliqua Glichard.
L'heure du décès est très difficile à estimer. On verra ce que donne le taux de potassium dans l'humeur vitrée, mais ce ne sera pas une donnée fiable si la mort remonte à plus de 4 jours, ce qui semble être le cas. On dispose de modèles de refroidissement des corps qu'il est hasardeux d'appliquer ici à cause de la couette, de la forte chaleur qui régnait dans la chambre, mais surtout de l'humidité.
Les casseroles d'eau disposées au sol, c'est ça ?
Exactement. L'humidité et la chaleur favorisent la prolifération des bactéries, donc accélèrent la décomposition. Des mouches se développent et amplifient encore le processus. Il est évident que votre assassin était au courant de ça. Il a cherché à falsifier les signes thanatologiques et il y est arrivé.
T'as quand même une approximation ?
La putréfaction a commencé à s'installer, la tache verte abdominale en est la preuve. Mais cette jeune femme aurait très bien pu être tuée jeudi comme dimanche. Désolé de ne pas être plus précis.
Glichard réfléchit à voix haute.
L'enveloppe qui contenait la photo de la scène de crime a été oblitérée le samedi matin. Ça nous donne une date butoir, la nuit de vendredi. Donc on serait sur jeudi ou vendredi.
C'est un peu large, mais c'est mieux que rien.
Il prit des notes dans son carnet. Charcot se sentait flottant, comme si son sang avait quitté ses veines. Présence d'éruption cutanée sévère sur les membres et le cou, poursuivi le légiste, en forme de plaque d'environ 2 cm de large. Peut-être une réaction violente de l'organisme à un produit, une drogue. En tout cas, ce n'est pas lié à la décomposition. À voir avec la toxico. Il mesura ensuite les plaies au niveau de chaque sein, effectua de profondes crevées, tailla dans la chair avec la lame de son scalpel. Brûlure de 3e degré, destruction totale du derme, de l'épiderme et de la graisse hypodermique. Nécrose cutanée sans carbonisation. Après plusieurs minutes à débiter des termes techniques, il passa aux organes génitaux, observa la gravité des lésions, la couleur des tissus, plantant son nez entre les cuisses de la victime. Charcot se demanda comment on pouvait supporter ça. Elle était vivante quand on lui a infligé ce supplice. La périphérie des plaies est gorgée, aspect ecchymotique, coagulation in situ. Les saignements ont été abondants. Quant à une éventuelle pénétration, l'anapathe pourra mieux nous renseigner, parce que franchement, je n'y vois rien.
« De quelle manière elle a pu être brûlée ainsi ?» demanda Glichard.
« Un petit chalumeau de bricolage ou de cuisine, de ceux qui servent à caraméliser, par exemple, aurait très bien pu faire l'affaire. Il fallait une flamme forte et directive qui puisse être orientée vers le bas. Pas une bougie, quoi. » Aidé de son assistant, le médecin retourna le cadavre et notifia l'absence de pénétration anale. Charcot écoutait sans broncher. L'assassin avait ravagé toute trace de féminité, y compris son visage. Lui avait-il calciné le sexe pour effacer les marques d'un viol ? Ou s'agissait-il de haine à l'état pur, de sadisme ? Le corps fut replacé sur le dos. Le bruit flasque des chairs molles sur l'acier sortit le jeune inspecteur de ses pensées. « Autre chose qui pourrait vous intéresser, » annonça le légiste en soulevant la main droite de la victime, « les poignets étaient attachés au montant du lit avec ce qu'on appelle un nœud d'évadé ou nœud de brigand. » J'ai vérifié dans un bouquin qui traîne dans mon bureau. Un brin serre le coude alors que le second défait instantanément l'ensemble. Il suffit de tirer en douceur et ça marche. Ce genre de nœud est surtout utilisé en escalade, pour lier des cordes entre elles et les délier rapidement en cas de besoin. Le glaive nota l'information et la souligna d'un triple trait.
Quelle perversité, lâcha-t-il.
La victime pouvait donc se libérer.
Probablement.
Mais je n'ai constaté aucune marque de défense. Hormis sur la figure, elle n'a d'échymose nulle part. Vu ce qu'elle a subi, vu les coups et la douleur, elle aurait dû forcer sur ses entraves à s'arracher la peau, se débattre comme un diable, or là, il n'y a rien. Ses pieds n'étaient visiblement même pas ligotés. À mon avis, elle était droguée, incapable de bouger. Ça expliquerait que le tueur ait pu agir avec autant de précision sans laisser de traces. En tout cas, une chose est sûre, cette pauvre fille a subi un interminable calvaire. Il adressa un signe à son assistant et déclencha le magnétophone.
Allez, on y va.
Droit comme un i, Charcot essaya de penser à quelque chose d'agréable lorsque le légiste opéra le dégagement de l'encéphale, armé de sa scie sternale qui projetait de la poussière d'os. Il pratiqua l'ablation du scalp, décalota la boîte crânienne, puis replia la peau du visage jusqu'au menton, dévoilant le masque facial. Si cette vision était insupportable, pour Charcot, c'était les bruits qui lui retournaient l'estomac. Alors que le médecin auscultait le cerveau entre ses gants souillés, le flic se demanda combien de temps il tiendrait. Et il eut sa réponse quand Van de Velde attaqua son incision manteau-pubienne en partant des 2 clavicules et écarta les pans de chair tels des rideaux qu'on ouvre. Le bloc cœur-poumon apparut et des odeurs abominables
que les vapeurs de Calvados ne parvenaient pas à chasser, envahirent la pièce. Le teint cireux, Franck s'excusa et sortit. Il se perdit dans les couloirs, plein de rage, de colère, avec l'envie de fracasser toutes ces portes devant lui. Quel humain était préparé à voir un semblable se faire désosser comme une vulgaire voiture dans une casse? Il s'était attendu à ce que ce soit difficile, mais pas à ce point-là. Le glaive le rejoignit à l'accueil 1 heure et demie plus tard, les traits tirés et l'œil brillant. Il était près de 22 heures.
« Je suis désolé si... » fit Charcot.
D'un geste, Glichard le coupa et l'invita à l'accompagner à l'extérieur. Là, il lui tendit une cigarette ainsi qu'un briquet Zippo en argent.
« Je ne fume pas, » lança Franck pour décliner.
« Allume-la moi juste, c'est pour éviter que ma moustache prenne feu avec l'essence. » Franck s'exécuta. Le goût du tabac libéra une étrange sensation dans sa gorge. Son coéquipier savoura ensuite une bouffée, les yeux mi-clos.
« Elle est morte de ses hémorragies, » dit-il. « Pas de strangulation, de fracture au crâne, rien. Ce salopard l'a sans doute droguée. Il l'a cramée aux endroits les plus sensibles et l'a laissée se vider de son sang. »
Il souffla de la fumée sur son costume pour atténuer les odeurs de mort et marcha jusqu'au parking.
« Ce que t'as vu là-dedans ce soir, c'est la vérité crue, Charcot. Pas de phare, pas de maquillage. C'est la mise à nu du monde dans lequel on vit. Tout cela existe bel et bien et nous, on est en première ligne. »
Au-dessus d'eux, la silhouette d'une rame de métro disparaissait dans la courbe des rails. Derrière, les lumières d'une péniche amarrée au quai dansaient à la surface de la Seine.
« Cette ville ne dort jamais, » pensa Franck.
« T'as raison de regarder, » déclara Glichard en fixant à son tour le fleuve et la gare d'Austerlitz sur l'autre rive.
« Ils sont tous là, quelque part. Ceux qui violent et tuent déambulent dans les mêmes rues que nous, bien intégrés à la population. Ils sortent leurs poubelles, saluent leurs voisins. Certains ont des femmes, des gosses. Faut s'y faire. Dis-toi toujours qu'il n'est pas impossible que tu les croises en te baladant ou en allant chercher ton pain. Et tout ça n'ira pas en s'arrangeant. »
Il soupira. L'espace d'un instant, Charcot vit la lassitude alourdir son visage.
Rentre chez toi, va te coucher. Peu probable que t'arrives à dormir, mais essaie quand même. Tu ne tiendras pas, sinon.
Comment vous faites, vous tous, pour supporter tout ça?
On ne le supporte pas, on vit avec. Au fil de ta carrière, tu verras des mecs exploser en plein vol. Tu en feras peut-être même partie. C'est comme ça, on a un métier qui fait vieillir plus vite que les autres.
À demain. Il se serrera la main. Avant que Franck atteigne sa voiture, Glichard l'interpella une dernière fois.
Ça n'aurait pas été logique que tu restes jusqu'au bout. Crois-moi, ça nous rassure tous de savoir que t'es un type normal. On ne veut pas de psychopathe dans le service. On en a déjà assez à traquer.